Chapitre 9. Portefeuille du gentleman. Nous sommes revenus au refuge une fois de plus. Cette fois, la nuit était bien avancée. Il devait être 2 ou 3 heures au moins. À vrai dire, j'aurais aimé regagner le croisement à la sortie du marais pour récupérer le poney d'Eddie et éventuellement contrôler le contenu des grandes sacoches en cuir accrochées à la selle de Jack. Mais de toute évidence, ce n'était même pas la peine d'y songer. Maman avait certainement dû se faire du souci en voyant que je ne rentrais pas. Les parents d'Eddie aussi. Peut-être que le village tout entier était sans dessus-dessous et avait décidé de partir à notre recherche, etc. De retour à la cabane, on a pris une vieille caisse en bois qu'on a retournée pour faire une table. Dessus, on a tout mis, la montre cassée, le portefeuille et l'enveloppe. « Commençons par le portefeuille », a déclaré Joju. Alors que tout le monde l'a regardé attentivement, elle a pris le rectangle de cuir qui a craqué en s'ouvrant. On s'est serré pour mieux voir, épaule contre épaule, et Eddie s'est exclamé « Waouh !» Le portefeuille contenait un paquet de billets de banque, quelques pièces, 2 chèques au nom de la société Walker & Down, plus une feuille de papier pliée en 8 où il était écrit que M. Richard Norton Bolton travaillait en qualité d'agent commercial pour Walker & Down et qu'il était à ce titre autorisé à traiter des affaires, à conclure des accords pour le compte de la compagnie et patati et patata. « Vous pensez que Richard était le vrai prénom de Jack ?» a demandé Joju. « Possible. » Ou alors Jack était un criminel qui a volé ce Richard, a suggéré Ed. De mon côté, j'ai compté les billets de banque en les froissant entre mes doigts. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris pourquoi le révérend Thompson me répétait que savoir compter pouvait être utile dans la vie. Il y avait 34 $ et 80 pence. Je les ai recomptés 3 fois pour être sûr. Le compte était bon. 34 $, 80 pence. Vous vous rendez compte, les amis? On est riches, on dirait bien. Ben tiens, a fait Joju. « Dès qu'ils découvriront ce qui est arrivé à Jack, ils nous prendront tout, jusqu'au dernier cent. » J'ai immédiatement réfléchi à une solution. On cache les sous, on les enterre, tandis que Joju sortait un tas de papiers de l'enveloppe. C'était une liste interminable de noms, d'objets, de références et d'adresses. Les 3 ou 4 premières pages étaient tachées d'encre et chaque ligne avait été rayée d'un trait de plume. Sur la 5e page, le premier nom qui n'était pas raturé était celui de maman. « Chevalier Johanna, Mrs. » disait le document. Derrière, il y avait le nom du village et l'adresse de ma ferme. Puis REF 61R510 et REF 92R510, revolver et munitions, valeur 2,20 $. Juste après, on trouvait la date à laquelle nous avions envoyé la commande au catalogue, pile la bonne, et la date d'expédition également inscrite sur le colis de la montre. « Mince, a dit Eddie, ce Jack ou Richard, ou peu importe son nom, savait vraiment tout sur nous. » « Forcément, ai-je répondu. C'est un genre de registre des commandes passées au catalogue, non ? Il nous avait expliqué qu'il faisait le tour de toutes les familles pour comprendre qui avait reçu la montre par erreur. » Joju, qui avait continué à fouiller dans les papiers, en a sorti un différent des autres. Plus qu'une liste, la ressemblait à une lettre. Elle l'a tendue à Ed, qui était le plus fort en lecture. À l'attention de tous les agents de commerce Walker & Down mentionnés par la présente. « La présente quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eddie et Julie ont haussé les épaules. Visiblement, ils n'en savaient rien, eux non plus. Ed a poursuivi. Une grave erreur est survenue dans les envois à destination de l'État de Louisiane, secteur de la Nouvelle-Orléans, de l'État du Texas, secteur de San Antonio, et de l'État de l'Oklahoma, secteur de Buffalo, de l'État de Kansas, secteur de Kansas City, de l'État de... c'est bon, l'a interrompu Joju. Laisse tomber la liste et continue. La bougie dessinait des ombres étranges sur ses joues. Ça la faisait ressembler à une indienne. L'erreur concerne un colis envoyé au cours des 2 dernières semaines, la date de ce courrier faisant foi. Au colis susmentionné a été ajouté par erreur un objet d'une valeur inestimable. Il s'agit d'une montre à gousset de chemin de fer de marque American Company avec chronomètre intégré. La montre est absolument identique au modèle indiqué sur le catalogue sous la référence 99S171, confère l'illustration et les caractéristiques relatives à cet objet. Le boîtier présente des traces d'impact et des éraflures, notamment une en forme de croix dans la partie supérieure gauche. Sur le bord de la montre est indiquée l'année de fabrication, 1881. La montre ne fonctionne pas. Je me suis rendu compte que je tremblais. « Mine, j'ai dit, donne-moi cette montre. » Le petit a fait non de la tête. « Mine, a dit Joju, c'est important. » Avec un soupir, il a tendu l'oignon. J'étais tellement agité que j'ai failli le laisser échapper. En le retournant, j'ai aussitôt repéré la croix dont parlait la lettre, au milieu de ce labyrinthe d'éraflures et de traces. Elle était profonde, comme si on l'avait gravée avec la pointe d'un clou. Sur le bord, en petit caractère presque invisible, il y avait l'année, 1881. Mince, ce truc est sacrément vieux, plus de 20 ans. A tout sauté Eddie. Si vous me laissiez en placer une, je pourrais continuer. Récupérer cette montre est de la toute première importance. Il conviendra donc de rendre visite aux familles qui ont passé des commandes dans les zones et aux dates indiquées, puis de leur offrir à titre de dédommagement un remboursement contre la restitution de l'objet. La négociation du dit remboursement est laissée à la discrétion de l'agent jusqu'à un montant maximal de 4 000 $. Merde, ai-je crié, en manquant de tout renverser par terre. 4 000 $? Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Cette montre vaut de l'or et même plus. Vous comprenez? Et c'est nous qui l'avons. Même Josu avait bondi. Jack voulait joliment nous rouler dans la farine avec ses 50 $. Maintenant, Eddie a fait mine de ne pas nous entendre et poursuivit sa lecture. Une fois l'objet récupéré, il conviendra d'envoyer toutes affaires cessantes un télégramme au siège central de Chicago. L'agent est donc prié de monter dans le premier train et de remettre personnellement l'objet au bureau de Walker et Down dans les meilleurs délais sans regarder à la dépense. Il est interdit de faire appel aux services postaux, au Pony Express ou de laisser l'objet sans surveillance à quelque moment que ce soit. Celui-ci devra formellement être remis en main propre. Le temps de prendre une grande inspiration, Eddie a fini. On passe ensuite à une liste de tous les agents répartis dans les différents secteurs. Pas très intéressant, j'ai l'impression. Et puis la lettre se termine comme ça. Monsieur Richard Norton Bolton a la charge des recherches pour l'État de Louisiane. Bonne chance. Cet ultime message a résonné en moi comme un coup de cloche. Nous nous sommes tous regardés. Et maintenant? À mon avis, la question ne se posait même pas. Et maintenant, il ne nous restait plus qu'à partir pour Chicago. À peine avais-je eu le temps de lancer l'idée, qu'Ed a bondi, heurté la caisse qui nous servait de table et fait tomber la bougie qui a répandu des gouttes de cire un peu partout. « Mais t'as perdu la tête ou quoi ?»« Si tu continues, gare à ton pif !» Il n'a même pas semblé m'entendre. Il était vraiment dans tous ses états. « On a presque 10 $ chacun sous la main, c'est beaucoup d'argent. On n'a qu'à rentrer à la maison, on sera accueilli en héros. C'est ce que tu voulais, non ?» Je n'arrivais pas à le croire. Mon ami Eddie voulait me lâcher. « Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces 10 pauvres $ miteux, Ed ? On parle de devenir riche à millions, là. C'est la chance dont on a toujours rêvé. Pas question de nous défiler, surtout pas maintenant. C'est en ce moment que tout se joue pour nous. »« Mine et moi, on est partant, » murmurait Julie. « On veut partir tout de suite, je crois. » Mine a pris sa main et Josu lui a fait le plus joli sourire que j'ai jamais vu, comme pour le convaincre de ne pas avoir peur, parce qu'elle s'occuperait de tout. « Mais c'est très loin, Chicago, petit 3, » a bafouillé Ed. « Et nos parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut au moins les prévenir. Personne ne peut rentrer maintenant. Vous imaginez le remue-ménage? Ils doivent être en train de nous chercher partout. S'ils nous retrouvent, on sera punis pendant 1 an, voire plus. Bien plus. Et si quelqu'un découvre cette histoire de montre, il n'aura qu'à aller à Chicago à notre place et on finira gros gens comme devant. » J'imaginais d'ici Chuck grimper dans un train, se rendre aux entrepôts de Walker et Down et peut-être même se retrouver dans le journal. Ça aurait bien été son genre à celui-là. Et je n'avais pas la moindre intention de le laisser faire. « Mais ils se feront un sang d'encre, » a objecté Ed en pleurnichant. « Non, parce qu'on leur enverra un télégramme dès que possible, » ai-je rassuré. « On dira qu'on va bien, qu'on est parti pour une mission importante. Attends qu'on devienne riche comme des princes. Je suis sûr que tout le monde nous dira 1000 fois bravo et merci. Réfléchissez un peu, cette montre vaut au moins 4 000 $. Une fois de retour, chacun pourrait s'acheter sa propre plantation et... Moi, ça ne m'intéresse pas de revenir ici à bougonner Josu. Alors tu feras le tour du monde comme une grande lady. » « Écoutez-moi, il faut partir tout de suite et sans perdre de temps. Rassemblons nos affaires et allons-y. Cette nuit, d'ici 2 jours, on sera à la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, m'a lancé Ed d'un air de défi. À vrai dire, je ne savais pas très bien où se trouvait Chicago. C'était loin d'ici, mais à part ça... On achètera une carte, me suis-je écrié. Ce ne sera pas difficile. Et puis le télégramme de Jack parlait d'un train, et on a de quoi se payer un billet. Pour le moment, on n'a qu'à rejoindre la Nouvelle-Orléans. À pied, à glapit Ed, avec le canoë, une fois là-bas. On cherchera la gare, on dégotera le premier train pour Chicago et pour une ville sur le chemin et on grimpera à bord. Il y aura peut-être 1 ou 2 changements à faire, mais on verra ça en temps voulu. Je suis sûr qu'on va y arriver. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs centaines de miles entre la Nouvelle-Orléans et Chicago, si ce n'est plus. Je le sais parce que mon papa a un atlas à la maison. Il faudra pratiquement traverser tous les États-Unis pourtant. À t'entendre, il n'y a rien de plus facile. Ce ne sera pas facile du tout, Eddie. Ce sera l'histoire la plus folle qui nous sera jamais arrivée. À notre retour, personne ne nous enverra plus au cours de Bible du dimanche. Personne ne se moquera plus de Julie et de Mine. Je me suis arrêtée. Ce n'était peut-être pas une chose à dire. Mais Josu a souri. Oui, rien ne sera plus comme avant. Plus jamais. À ces mots, j'ai tendu la main. Josu a posé la sienne dessus, et Mine aussi. Finalement, Eddie nous a regardés une dernière fois et a dit qu'on était complètement fous. Seulement, il ne pouvait pas rentrer chez lui tout seul. sans quoi il aurait passé un sale quart d'heure à notre place, et il n'y tenait pas, mais alors pas du tout. Du coup, il a fini par tendre la main, lui aussi. Il ne restait qu'une chose à déterminer, la plus importante, qui serait le chef de l'expédition. Je ne voulais pas me proposer, car c'était un peu plus évident. Ça ne pouvait pas être Eddie, parce qu'il était trop fragile, et puis il avait des lunettes, ni Joju, parce que c'était une fille, et je ne parle même pas de mine. Forcément, c'était le plus petit, et par-dessus le marché, il était noir. Malgré tout, un vrai chef ne doit pas se mettre en avant. Il doit être choisi et acclamé par son peuple. J'ai donc attendu d'être acclamé, en songeant déjà à ce que je dirais avant d'accepter. « Non, non, je ne suis pas à la hauteur, vous êtes trop gentil, des choses dans ce goût-là, la modestie incarnée, quoi. » Au lieu de ça, Eddie a prétendu que c'était à lui d'être le chef, car il était un chaman qui savait parler aux alligators. Joju, elle pensait que cette mission lui revenait, car elle était la plus dégourdie de la bande et mine lui-même donnait l'impression d'avoir son mot à dire en agitant la montre. J'ai laissé échapper un soupir. Avec des sujets pareils, un chef aurait de quoi perdre patience. Après quoi, j'ai envoyé un coup de poing dans le ventre d'Eddie, un coup qui a failli le faire pleurer, mais qui a surtout donné lieu à une bagarre en bonne et due forme. Au bout du compte, tout le monde a compris que ce serait moi le chef. Fin de la discussion. « Voilà mon premier ordre, ai-je alors annoncé. Il faut faire nos bagages et partir tout de suite. Il est déjà très tard et on doit avoir fait du chemin d'ici le lever du soleil. Autrement, on risque de se faire pincer. » Eddie et Mine ont donc pris le nécessaire, y compris le portefeuille de Jack, la lettre et même la redingote tachée de sang. De mon côté, je suis sorti et j'ai nettoyé le canoë le mieux possible avant d'y ranger les cannes à pêche et tout le reste. Moins d'une heure plus tard, nous sommes tous montés à bord. Depuis le rivage, j'ai poussé le canoë dans l'eau, bondi à la poupe, c'est là qu'on se place pour piloter, attrapé la rame et commencé à pagayer de toutes mes forces dans le cœur du marais. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le refuge avait disparu derrière nous. Et avec le refuge, c'était aussi nos maisons, nos familles et tout ce qu'on avait connu jusque-là qui s'éloignait.